les informations Ramambaï.
Processus électoral, 73 candidats ont été enregistrés pour la présidentielle et 8650 pour les législatives. Ces données ont été rendues publiques hier par le président de la commission électorale indépendante. Tous les crimes commis après 2002 seront examinés et tous les coupables seront transférés devant la Cour pénale internationale. Ces déclarations sont du procureur général de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo. Vive tension à la prison de haute sécurité de Buluo-Katanga. 56 prisonniers non repris sur la liste des amnistiés crient à l'injustice. Ils refusent que seuls les condamnés pour crimes de guerre bénéficient de cette grâce présidentielle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Processus électoral en République démocratique du Congo. 73 candidats, dont 8 femmes, se sont enregistrés pour la présidentielle et 8650 pour les législatives. Le président de la commission électorale indépendante l'a déclaré hier mardi au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue à Kinshasa. L'abbé Apollinaire Malou Malou a annoncé que la publication des listes provisoires des candidats interviendra le 5 avril pour la présidentielle et le 19 avril pour les législatives. Au cours de cette conférence, d'autres points ont été abordés, comme le statut du chef de l'État. Plus de détails dans ce reportage de René Capita rendu par Mireille Boukassa.
Parmi les points abordés, il y a eu notamment celui ayant trait au statut du chef de l'État. Est-il militaire ou civil? D'après le président de la CEI, la question a été résolue déjà lors de l'enrôlement. À l'époque, la commission électorale avait reçu une lettre du chef d'état-major et du ministre de la Défense sur la mise en disponibilité de Joseph Kabila. Concernant la date du 30 juin, le président de la CEI a rassuré que cela est de la compétence de la Cour suprême de justice qui interprète la Constitution. Il a fait remarquer aussi que la Constitution prévoit des dispositions transitoires et finales qui déterminent la manière dont les institutions de la transition vont passer le pouvoir aux institutions issues des élections. Au sujet des candidats de l'Ituri qui ne se seraient pas fait enregistrer, le président de la CEI a informé qu'un acteur politique sérieux qui savait depuis le début de la transition qu'il y aura des élections et qui suit l'actualité du processus électoral devrait se préparer et prendre toutes dispositions nécessaires pour se faire enregistrer. C'est une question de responsabilité.
Quant à la réception des dossiers de candidature pour les élections provinciales, le président de la CEI a signifié qu'elle débutera le 20 avril prochain. Toujours au sujet des élections, Human Rights Watch prévient le gouvernement des risques de manipulation politique et de maltraitance supplémentaire des enfants de la rue, comme il a été le cas au cours des dernières années. L'ONG internationale demande donc au gouvernement congolais de multiplier des efforts, surtout en cette période préélectorale, pour protéger ses enfants. Human Rights Watch l'a déclaré dans un rapport publié hier mardi et intitulé « Quel avenir les enfants de la rue en République démocratique du Congo ?» Je vous propose d'écouter Tony Tate, chercheur de Human Rights Watch et auteur de ce rapport. Il est au micro de Clara Kambundi.
Le gouvernement, ensemble avec la communauté internationale, doivent redoubler les efforts pour être sûr que ces enfants de la rue ne sont pas recrutés, ne sont pas utilisés par le parti politique pour faire des désordres. Et comme ça, ça c'est une première étape pour ces enfants de la rue de les protéger pendant la période électorale. Et après, on a quelques recommandations pour le gouvernement de vraiment essayer de sensibiliser la population congolaise. Pourquoi il y a la violence? Pourquoi ces enfants sont dans la rue? On demande au gouvernement de faire un plan réel pour réagir dans un sens national, pour essayer d'éviter que les enfants arrivent dans la rue dans la prochaine, aussi pour essayer de trouver la famille, les oncles, les tantes, etc., etc., pour bien prendre ces enfants qui sont déjà dans la rue.
Nul n'est au-dessus de la loi. Tous les crimes commis après 2002 seront examinés et tous les coupables seront transférés devant la Cour pénale internationale. Le procureur général de la CPI, Luis Moreno Ocampo, l'a signifié hier mardi à Kinshasa. C'était au cours de sa conférence de presse tenue à l'hôtel Memling. Le point sur cette conférence avec Nicole Koudiangela.
Au cours de cette conférence de presse, M. Luis Moreno a voulu rassurer l'opinion congolaise quant aux autres crimes et actes génocidaires qui se sont déroulés en RDC depuis 2002. 2002 qui constitue le temps que prend en charge son institution. Le cas de Thomas Lubanga, a-t-il dit, ne sera pas un cas isolé. Les enquêtes sont en cours. Il s'agit pour la Cour pénale internationale de connaître ceux qui l'ont soutenu financièrement, mais aussi d'approfondir les informations sur les crimes commis en dehors de l'Ituri. Au sujet des crimes commis par les hommes du MLC en République centrafricaine, une mission a été effectuée en vue de savoir s'il faut ouvrir une enquête à ce sujet. Quant à la justice congolaise, il affirme travailler encore avec celle-ci. Néanmoins, il recommande à la justice congolaise de pouvoir se développer afin de continuer à juger les génocidaires.
Sachez que Luis Moreno Ocampo, le procureur général de la Cour pénale internationale, sera l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais ce soir à 19h15, heure de Kinshasa. Mais Radio Kapi a eu aussi l'opportunité de lui poser la question soumise par Monseigneur Monsengo à Monsieur Kofi Annan à propos d'un tribunal international pour le Congo afin de poursuivre les crimes commis avant l'année 2002. Question proposée par Claude Bousset.
Monseigneur Monsengo, il est le président des évêques du Congo, a remis un document au secrétaire général de l'ONU en visite au Congo. Il demande la mise sur pied d'un tribunal pénal international qui puisse juger les crimes commis déjà depuis 1996. Quelle est votre réaction?
Très bien. Très bien.
La réponse est très bien. Rapidement, nous ne pouvons pas travailler sur les crimes commis avant juillet 2002. Donc pour nous, c'est important que les Congolais prennent des initiatives et tout ce qui peut être fait pour évaluer comment gérer ces crimes et comment répondre à ces crimes auparavant. Le Congo a vécu une situation des moments très difficiles dans le passé, mais je crois que la situation change et peut-être s'améliore. Les Congolais ont leur futur, leur destinée entre leurs propres mains et nous essaierons de répondre à notre niveau par une procédure judiciaire pour participer à l'avancement de la République démocratique du Congo vers un futur un petit peu différent.
C'était la Luis Moreno Ocampo, procureur général de la Cour pénale internationale qui sera l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais ce soir à 19h15. Nouvelle offensive militaire au sud Kivu. Depuis le week-end dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la MONUC, ont lancé une opération militaire contre les combattants Hutus rwandais au nord du parc national de la Kahuzi-Biega. Ces opérations se déroulent à environ 78 kilomètres au nord-ouest de Bukavu. Le point avec Serge Maéché.
Ces opérations font suite à une recrudescence de l'insécurité sur l'axe Bukavu-Bunyakiri. Vendredi dernier, trois véhicules ont été pillés, dont un camion brûlé, au niveau du village de Kichwa, dans le parc national de Kahuzi-Biega, par des combattants hutus rwandais. Selon un témoin trouvé à Kichwa, les assaillants sont venus de la forêt. Ils ont pillé les effets des voyageurs avant de prendre cinq personnes en otage pour transporter ces biens. Mubugu Valentin explique. C'était vendredi vers 10h. Les combattants hutus rwandais sont venus de la forêt. Ils ont brûlé ces camions de marque Fuso. Mais ils ont également pillé une camionnette Hilux. Et après, ils sont repartis dans la forêt. Ils ont pris des gens en otage. Personne n'est mort, mais cinq personnes sont toujours portées disparues. Jusqu'à ce jour, aucune nouvelle des otages. Le FRDC dit être à la poursuite des assaillants. Par ailleurs, il y a quelques jours, les combattants hutus rwandais ont tenté de reprendre les contrôles de certaines localités dans la zone de Bunyakiri, des localités desquelles ils avaient récemment été chassés par le FRDC. A noter que fin février, le FRDC et la MONUC ont lancé une opération militaire dans cette zone et avaient pris les contrôles de plusieurs bastions FDLR. Bukavu, Serge Maéché, Radio Okapi.
Direction Katanga, vive tension à la prison de haute sécurité de Bulouo, à 3 km de Likasi. Un groupe de 56 prisonniers non repris sur la liste de ceux qui doivent être libérés sur décision du ministre de la Justice crie à l'injustice. Ces prisonniers refusent que seuls les condamnés pour crimes de guerre bénéficient de l'amnistie présidentielle. Ces prisonniers qui, eux, sont poursuivis ou condamnés pour des infractions politiques exigent la révision de la liste par l'autorité judiciaire. La MONUC accompagnée de deux ONG partenaires, a visité la prison de Bulouo hier mardi. Je vous propose d'écouter le témoignage de Prince Kumwamba de l'ONG Action contre l'impunité pour les droits humains. Il faisait partie de la délégation. Ses propos sont recueillis par Donat Chimbouche.
À Bulouo, nous avons constaté une situation très tendue entre les groupes de détenus. Il y a des détenus considérés par l'arrêté du ministre de la Justice comme étant libres. D'autres qui s'estiment être bénéficiaires, notamment les détenus condamnés ou poursuivis pour des infractions politiques, et qui considèrent que la décision du ministre a été très sélective et donc ils ne peuvent pas laisser sortir ceux qui sont considérés comme étant libres. Ils veulent que tous puissent sortir et bénéficier, n'est-ce pas, de la loi d'amnistie, et cette situation risque d'exploser à tout moment. Nous aussi, on ne comprend pas comment les ministres de la Justice puissent libérer uniquement les personnes qui étaient condamnées pour des faits de guerre, alors que Bulouo gorge la majorité des personnes qui étaient condamnées ou poursuivies pour des infractions politiques.
Enseignement, bras de fer entre l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication Extension de Mbujimayi et la Radio-Télévision nationale congolaise. À la base, l'occupation des bâtiments du centre d'émission depuis 3 semaines par les étudiants, les responsables de la RTNC les somment d'évacuer les locaux de ce centre. Le responsable de l'IFASIC rétorque que la RTNC n'est pas propriétaire des bâtiments. Chris Mukand.
C'est une guerre ouverte qui débute entre la station provinciale de la Radio-Télévision nationale congolaise et l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle. Pour les responsables de la RTNC, les étudiants de l'IFASIC ne peuvent plus continuer à étudier dans ce qu'on appelle le centre d'émission, un bâtiment qui abrite les émetteurs ondes courtes de la chaîne. Ils les somment de quitter les lieux. De son côté, l'autorité de l'IFASIC, M. Michel Ngandou Kongolo, qui se trouve également être le chef de la division provinciale de l'information de la presse, affirme que la RTNC n'est pas en position d'ordonner cette évacuation, car elle n'est pas propriétaire des locaux. La MIBA serait le seul propriétaire. Pour compliquer la situation, l'OCPT revendique également la gestion de ce patrimoine que la MIBA lui aurait concédé dès 1968. Pour le moment, les étudiants suivent encore les cours dans le centre d'émission et déclarent ne pas être prêts à les restituer sans être préalablement fixés sur leur sort. Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Okapi.
Pendant ce temps, c'est la joie pour des milliers d'élèves du côté de Kindu au Maniema. Une vingtaine d'écoles primaires et secondaires viennent d'être réhabilitées grâce au financement de la coopération technique belge. Ces travaux ont été exécutés par les ONG locales dans le cadre du projet d'appui aux initiatives communautaires de base. Explication Gabriel Wamenia.
Au total, 10 247 élèves du primaire et du secondaire de la ville de Kindu, bénéficiaires de ces projets, peuvent désormais étudier dans des conditions décentes. 21 écoles viennent d'être construites, tout en dire, et leur inauguration a été faite hier par les autorités du Maniema. Ces écoles construites dans les quartiers périphériques de Kindu ont été très exposées et détruites lors des affrontements de 2001 et 2003. Cela fait une preuve de la reprise de la vie sociale qui est redevenue stable dans ces quartiers jadis abandonnés par leurs habitants. Les travaux exécutés par les ONG locales ont été financés par la coopération technique belge, dont les coûts est évalué à 619 000 dollars américains. À cette occasion, d'autres travaux financés par la Belgique ont été inaugurés. C'est par exemple une porcherie à Bassoko et 47 points d'eau dans les mêmes quartiers. Selon les responsables de la coopération technique belge à Kindu, Maurice Boilat, la coopération technique belge va appuyer dans les mois à venir des réalisations dans les localités riveraines du fleuve Congo. Ce sont notamment la construction des écoles à Katakokombe, Tchumbe Tchumbe, Lokando dans les territoires de Kailo à l'est de Kindu. Kindu, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Le marché de Kanzala Chikapa fait peau neuve. Ce plus grand marché du chef-lieu du Kassai occidental est totalement reconstruit grâce à une initiative de la mairie de Chikapa. Coût des travaux, 4000 dollars américains. Ce marché financé par les commerçants va contenir plus de 4000 marchands. Reportage Marie-Chantal Lumbe.
C'est sous l'initiative de la mairie de la ville de Chikapa que les commerçants ont reconstruit leur marché. Selon la présidente de ce marché, chaque commerçant a payé 3500 francs congolais pour acquérir un stand. Et cet argent a servi à la reconstruction de 13 pavillons et de plus de 500 stands. Le maire adjoint de la ville, Liliane Kongolo, souligne qu'il n'a pas été facile de convaincre les commerçants du bien fondé de l'initiative, étant donné que les marchands pensaient que l'État voulait morceler le terrain, comme l'avaient fait les anciennes autorités de la ville. Selon les commerçants, il ne reste que la construction des latrines et du bureau du préposé du marché pour finaliser les travaux. Tâche qui revient, selon la même source, à la mairie. Ce marché de Kanzala pourra contenir plus de 4000 commerçants. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
L'actualité en dehors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU et le secrétaire général Kofi Annan ont déploré hier mardi le refus des autorités soudanaises d'autoriser Yann Eglan, secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires, à se rendre au Darfour. Monsieur Annan regrette que Monsieur Eglan n'ait pas été autorisé par le gouvernement soudanais à visiter le Darfour. Le secrétaire général des Nations Unies compte s'entretenir de cette question avec le président soudanais Omar El-Béchir, a déclaré son porte-parole cité par l'agence France-Presse Stéphane Dujarric. Les besoins humanitaires urgents du Darfour sont une priorité pour les Nations Unies et les efforts de coordination de cet important programme étaient au centre de la visite de M. Yann Eglan, a-t-il précisé. 7h15 à Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme sur Radio Okapi. Okapi.
Merci.